VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mercredi 10 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
5 civils tués mardi dans la région de Beni lors d'une attaque attribuée aux rebelles ougandais ADF.
Démission du ministre sud-africain des Finances mise en cause dans une enquête pour corruption.
Soudan du Sud, l'ONU et l'Union africaine exigent des mesures concrètes pour appliquer l'accord de paix du 12 septembre.
Les États-Unis suivent de très près l'affaire Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien porté disparu après une visite au consulat de son pays à Istanbul.
Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, a annoncé hier sa démission.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, 5 civils ont été tués hier dans une attaque attribuée aux rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées ou ADF dans la région de Beni. Le point avec Eddie Sango.
Les miliciens ADF ont pris en embuscade une voiture sur la route nationale 4 entre Beni et la province de l'Ituri. Ils ont tué un chauffeur de taxi et 4 civils et blessé d'autres personnes, selon Noël Mouliwayo, président de la société civile du territoire de Beni. L'armée est arrivée en renfort, mais les rebelles avaient déjà causé la mort des civils, a confirmé le capitaine Mac Azukai, porte-parole de l'armée dans la région. Par ailleurs, des dizaines d'élèves et d'écoliers ont manifesté à Beni pour demander le retour de la paix. Ils ont rencontré 21 députés venus de Kinshasa pour aborder les questions sécuritaires. Les ADF sont accusés des massacres des 700 civils dans la région de Beni depuis le 2 octobre 2014 et de la mort des 15 casques bleus tanzaniens en décembre 2017. Ces groupes de rebelles ougandais musulmans s'est replié dans les années 90 dans l'est de la RDC pour combattre les régimes du président Yoweri Museveni.
Toujours en RDC, le candidat de la coalition au pouvoir pour la présidentielle du 23 décembre prochain a demandé hier une levée des sanctions de l'Union européenne contre lui et 14 autres personnalités congolaises. Selon Emmanuel Ramazani Shadari, il s'agit de sanctions humiliantes, dégradantes et disproportionnées. Ministre de l'Intérieur entre décembre 2016 et début 2018, M. Ramazani Shadari avait été sanctionné en 2017 pour violation des droits de l'homme.
Le ministre camerounais de l'Intérieur, Paul Atanga Ndji, a déclaré mardi à l'AFP que marquer un penalty, ce n'est pas gagner le match, en référence à cette métaphore sportive employée par l'opposant Maurice Kamto pour clamer sa victoire à la présidentielle de dimanche. Les autorités avaient déjà indiqué que M. Kamto se plaçait hors la loi. Par de telles déclarations, le Conseil constitutionnel étant le seul organe habilité à proclamer les résultats au Cameroun au plus tard 15 jours après le vote.
Le ministre sud-africain des Finances, Nala Nele, a démissionné hier après sa mise en cause dans une enquête pour corruption, première victime de poids du combat engagé par le président Cyril Ramaphosa pour nettoyer le pays des scandales. Nanit Talani.
Après plusieurs jours d'incertitude et sous forte pression, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a dit avoir accepté de se séparer de M. Néné, pourtant considéré comme un de ses proches. Cette démission intervient juste après l'annonce de l'ouverture d'une enquête administrative sur M. Néné, qui avait reconnu la semaine dernière s'être entretenu avec un trio de sulfureux hommes d'affaires proches de l'ex-président Jacob Zuma. Ce témoignage l'a détourné de son important devoir de servir le peuple au moment où nous travaillons précisément à rétablir la confiance du public envers son gouvernement, a justifié le chef de l'État. Le ministre n'a été directement impliqué dans aucun méfait, a précisé M. Ramaphosa, qui s'est engagé depuis son arrivée au pouvoir en février d'éradiquer la corruption et de relancer l'économie du pays. L'opposition s'est réjouie du départ de M. Néné. L'ancien gouverneur de la Banque centrale, Tito Mboweni, a été nommé et investi pour le remplacer.
L'ONU et l'Union africaine ont appelé hier les protagonistes de la guerre civile au Soudan du Sud à prendre des mesures concrètes pour appliquer l'accord de paix signé le 12 septembre. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies pour les opérations de paix, accompagné de Smaïl Cherghi, commissaire à la paix, à la sécurité de l'Union africaine, a mené une visite de 3 jours au Soudan du Sud, demandant donc des mesures concrètes, dont un cessez-le-feu effectif.
Monsieur Cherghi a promis que l'Union africaine demandera des comptes à quiconque prendrait l'autre route sans dire quelles mesures de rétorsion son organisation pourrait mettre en œuvre. Le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont signé le 12 septembre à Addis Abeba un nouvel accord de paix pour tenter de mettre un terme à la guerre qui déchire le pays depuis décembre 2013. Plusieurs accords ont déjà été conclus mais n'ont jamais été respectés. Ce conflit, marqué par des atrocités à caractère ethnique, a fait des dizaines de milliers de morts et poussé des millions de personnes à fuir leur foyer.
Au moins 40 personnes ont été tuées ce mercredi dans un accident d'autocar dans l'ouest du Kenya. Selon la police, l'autocar était parti de Nairobi pour Kakamega dans l'ouest du pays et transportait 52 passagers. Aucun détail sur les circonstances de l'accident n'était disponible.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis suivent de très près l'affaire Jamal Khashoggi, du nom du journaliste saoudien porté disparu le 3 octobre, après une visite au consulat saoudien à Istanbul. C'est ce qu'a déclaré hier Jim Mattis, ministre américain de la Défense. Précision d'Irénée Herman Ungbo.
Nous suivons la situation de très près et nous travaillons en étroite coopération avec le département d'État, a indiqué Jim Mattis. Le chef du Pentagone a cependant précisé que la coopération militaire avec l'Arabie Saoudite se poursuivait, notamment au Yémen. Lundi, le président Donald Trump s'était dit préoccupé par la disparition du journaliste. Le sénateur américain Lindsey Graham a prévenu que si les informations selon lesquelles Jamal Khashoggi a été assassiné sont confirmées, les conséquences seraient dévastatrices pour les relations entre Riyad et Washington. Monsieur Khashoggi s'est exilé aux États-Unis en 2017, redoutant une arrestation après avoir critiqué certaines décisions du prince héritier Mohamed Ben Salman et l'intervention militaire de Riyad au Yémen. Collaborateur du Washington Post, il s'était rendu au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre pour des démarches administratives. Selon la police turque, il n'en est jamais ressorti, ce que nient catégoriquement les autorités saoudiennes.
Affaire Patrick Ho, du nom d'un ancien officiel de Hong Kong, inculpé à New York pour pots de vin versés à des dirigeants africains. Une juge fédérale a rejeté une demande de remise en liberté introduite par ses avocats, arguant que les procureurs avaient sapé leur cas en annulant le mois dernier toutes les charges contre l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio, qui avait été accusé d'avoir aidé M. Ho. Les procureurs avaient soutenu devant la juge que M. Gadio, qui a toujours proclamé son innocence, avait accepté de coopérer avec eux. Ils se disent confiants que son témoignage contre M. Ho renforcera leur cas contre le prévenu.
Le président Donald Trump a annoncé hier que les préparatifs pour un nouveau sommet avec Kim Jong-un, le leader nord-coréen, ont avancé et que 3 ou 4 lieux sont maintenant envisagés. Le point avec Jacques Aristide.
Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, qui a rencontré une nouvelle fois dimanche le dirigeant nord-coréen à Pyongyang, a rendu compte hier de cette réunion au président Trump. Il a assuré que la date du second sommet Trump-Kim pourrait être arrêtée dans peu de temps. Il y a encore pas mal de travail à faire, mais nous pouvons maintenant voir un chemin pour atteindre l'objectif final, qui est la dénucléarisation vérifiée de la Corée du Nord, a-t-il estimé, remerciant Kim Jong-un de l'avoir reçu. En juin, les deux dirigeants s'étaient rencontrés à Singapour pour un sommet historique. Une nouvelle entrevue n'est pas très lointaine, a déclaré le président américain, sans préciser les lieux envisagés pour cette rencontre. La Corée du Sud avait annoncé dimanche que le sommet se tiendrait le plus tôt possible. Récemment, Donald Trump a multiplié les éloges envers l'homme fort de Pyongyang. « Je l'aime bien et il m'aime bien », a-t-il encore déclaré mardi.
On termine ce journal en Floride, où le président Donald Trump a déclaré l'état d'urgence mardi après-midi. la Floride où se prépare l'arrivée de l'ouragan Michael, qui pourrait être la tempête la plus dévastatrice depuis des décennies dans l'État, selon son gouverneur. L'ouragan devrait frôler la catégorie 4 sur une échelle de 5 en atteignant mercredi les côtes de la Floride. Il s'est hissé en catégorie 3 mardi après-midi, quelques heures à peine après être passé en catégorie 2, générant des vents à 195 km/h en moyenne, avec des rafales parfois supérieures selon le Centre national des ouragans. Fin de ce journal.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le FMI a baissé ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne en 2018 à 3,1%. Sa précédente estimation de juillet dernier envisageait 3,4%. Selon l'institution de Bretton Woods, les risques géopolitiques et les conflits internes pèsent sur les perspectives de plusieurs économies au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne. Le FMI a toutefois maintenu ses prévisions de croissance pour l'Afrique subsaharienne à 3,8% en 2019. En Côte d'Ivoire, le trafic de faux médicaments engendre un énorme manque à gagner pour l'industrie pharmaceutique. Au cours des deux dernières années, 385 tonnes de faux médicaments ont été saisies à Abidjan, ce qui représente une perte financière de 100 milliards de francs CFA. 30 à 40% des médicaments sont achetés dans la rue. Quelques 42% des médicaments en circulation en Afrique subsaharienne sont falsifiés. La croissance des États-Unis va s'accélérer à un rythme soutenu en 2018. D'après les nouvelles projections du FMI, elle est largement stimulée par les réductions d'impôts, mesure phare du mandat du président américain Donald Trump. Cette réforme fiscale adoptée fin 2017 est la plus importante depuis 30 ans. La mesure a réduit certains impôts sur le revenu et surtout a abaissé l'impôt sur les sociétés de 35 à 21%. Cependant, dit le FMI, cette croissance va s'essouffler dès l'an prochain sous l'effet de la guerre commerciale avec la Chine.
À présent, les sports avec ce matin Jean-Roger Bion. Jean-Roger, la Fédération Sierra Leonaise de football fait appel de sa suspension par la FIFA.
Oui, les autorités sportives Sierra Leonaise ont demandé la levée de la suspension de la fédération décidée vendredi par la FIFA, qui a dénoncé une ingérence entre les sphères politiques et sportives. L'instance mondiale du football reproche notamment aux autorités l'éviction de la présidente de la SLFA, Isha Johansen, et du secrétaire général Chris Camara pour des soupçons de corruption, match truqué et direction défaillante. À l'issue d'une réunion tenue lundi, la SLFA a adressé une lettre à la FIFA signée par Madame Johansen, demandant notamment la levée de la suspension afin que la Sierra Leone puisse affronter le Ghana en éliminatoire de la CAN jeudi. La FIFA rappelle avoir précisé dans sa décision la semaine dernière que la suspension ne serait levée que lorsqu'elle aurait reçu confirmation que Madame Johansen et Monsieur Camara avaient recouvré le plein contrôle de la fédération.
Nouvelle journée de qualification pour la CAN 2019.
Et ce sera Éthiopie-Kenya à Bahi pour le groupe F. Pour ce qui concerne le groupe K, Zambie-Guinée-Bissau à Lusaka, où la Zambie espère revenir sur les talons du leader bissau-guinéen.
Les Camerounaises sont bien arrivées en France.
Alors que cette joueuse et la majorité du staff de l'équipe féminine du Cameroun étaient encore bloqués au pays hier en raison d'un problème d'obtention de visa, la délégation camerounaise sera bien complète ce mardi à Grenoble pour le match face à la France qu'elles ont perdu hier soir. La fédération camerounaise, la FECAFOOT, a tardé à effectuer les demandes de visa alors que l'accord pour le match amical avait été signé en août. Elle ne s'est penchée sur le dossier que la semaine dernière, ce qui explique le couac administratif, d'autant que le pays est actuellement en pleine période électorale.
La FIFA dévoile sa stratégie pour le développement du football féminin.
C'est exact, la FIFA a dévoilé sa première stratégie pour le développement du football féminin. Parmi les objectifs affichés, atteindre les 60 millions de pratiquantes dans le monde, doubler le nombre de championnats de jeunes, augmenter le nombre de femmes dans les comités exécutifs de chaque fédération et atteindre une audience d'un milliard de personnes lors du Mondial 2019 l'année prochaine en France.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Seydoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Plus de 20 années de lutte contre les violences sexuelles en RDC auront permis au docteur Denis Mukwege de décrocher le prix Nobel de la paix 2018. Connu pour son travail chirurgical auprès des femmes et enfants victimes de violences sexuelles dans le sud Kivu, le gynécologue et militant des droits de l'homme partage le prix avec une jeune irakienne yazidi, Nadia Mourad, victime de ce même fléau sur un autre continent en proie à la guerre. Nathalie Barge a contacté le docteur Mukwege pour connaître ses projets après avoir reçu la plus belle récompense du monde.
C'est une satisfaction qu'enfin il y ait une reconnaissance de la souffrance des victimes de violences sexuelles. Et ceci nous amène à considérer avoir un espoir que leur besoin de réparation sera pris en compte et surtout aussi qu'on peut éviter, s'il y a d'autres victimes dans les conflits armés, d'abolir les viols comme armes de guerre.
Vous avez cette structure à Bukavu. Est-ce que vous avez l'intention d'en ouvrir d'autres dans d'autres régions de la République démocratique du Congo, voire dans d'autres pays qui auraient cette même nécessité?
Absolument. Je crois qu'à Panzi, nous avons déjà ouvert deux structures, à Mulamba et à Bulenga. Mais nous avons vraiment l'intention d'ouvrir les mêmes structures. À Kinshasa, le besoin est énorme. Mais bon, pour le moment, on n'a pas le moyen de le faire. Mais je crois qu'il est une priorité d'avoir un one-stop center où on peut donner les soins holistiques. À l'extérieur, nous avons fait des missions d'exploration en Guinée-Conakry, où nous avons déjà formé des psychologues cliniciens sont venus pour un court séjour à Panzi pour voir comment nous travaillons. Nous avons également eu des médecins et des infirmières qui sont venus également pour voir comment nous travaillons et nous espérons que peut-être très prochainement, à Conakry, vont commencer ces modèles. Nous avions été aussi en République centrafricaine où nous avons fait des explorations. Le besoin est énorme, mais il faut des moyens pour pouvoir prendre en charge cette population à Bangui qui a vraiment besoin de ce type de soins holistiques. J'avais aussi fait une mission en Irak pour rencontrer les femmes yézidis, et là aussi le besoin est énorme. Donc comprenez que partout il y a eu des conflits, malheureusement les femmes sont en besoin, mais souvent les structures manquent.
Vous avez eu récemment un coup de gueule contre le gouvernement de la RDC, hein, par rapport notamment aux élections. Vous avez dit que la solution c'est plutôt de lutter pacifiquement pour la libération totale de notre pays. Après cela viendra le temps des élections libre, crédible et transparente. Que vouliez-vous dire par là exactement?
Je me réfère tout simplement à l'article 64 de notre Constitution, parce que je considère que le pouvoir en place est illégal et illégitime. Et normalement, c'est à tout Congolais qui a l'obligation d'arrêter toute personne ou groupe d'individus qui essaie de prendre le pouvoir par force.
Est-ce que vous allez voter le 23 décembre?
Je suis citoyen, je suis enregistré, je vais voter, je suis citoyen.
C'était le docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix. Rendez-vous samedi à 19h05 sur VOA Afrique pour l'entretien intégral dans le monde féminin. Vous pouvez aussi l'écouter dans la rubrique LMF sur notre site internet.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Mali, l'exploitation de la mine d'or de Morila tire vers sa fin. Pour sauvegarder des emplois, développer l'économie locale et réduire l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement, le gouvernement et la société minière ont lancé un projet appelé Morila Agrobusiness. Il s'agit d'un projet ambitieux de reconversion en zone agricole avec un complexe qui allie aviculture, pisciculture, apiculture et maraîchage. Reportage de notre correspondant Kassim Traoré.
Après 17 ans d'exploitation, la mine d'or de Morila fermera ses portes en 2019. C'est pourquoi les responsables de Randgold et le gouvernement malien ont décidé de remplacer cette mine par un projet d'agrobusiness. Hilaire Diarra, directeur environnement et fermeture de Randgold Ressources.
Le plus important, c'est quoi? C'est qu'à travers ce projet agrobusiness, on peut créer plus de boulot que la mine ne crée. Déjà, c'est un très bon exemple de fermeture de mine. Trouver une zone comme ça, clôturer 1250 hectares, des infrastructures qui coûtent plus de 100 millions de dollars et transformer ça en zone de transformation, et moi je crois que c'est quand même un grand impact.
En plus de la terre, une piste d'atterrissage, des équipements et de l'énergie, Morila Agrobusiness doit compenser la production d'or, mais surtout donner espoir aux populations. La création de ce projet répond à un souci du gouvernement malien de mettre en œuvre des plans de développement communautaire autour des sites miniers. L'Elenta Awa Bababa, ministre des Mines et du Pétrole.
Voulant résoudre le problème d'un continent possédant plus de 30% des ressources naturelles du monde et dont les populations vivent dans la pauvreté, les chefs d'État de gouvernement d'Afrique ont adopté en février 2009 la vision du régime minier de l'Afrique, et communément appelé PMA, dont l'objectif est de pouvoir faire une exploitation équitable et optimale des ressources minières en vue d'une large croissance durable du développement socio-économique soutenu, et ainsi parvenir à une transformation structurelle de l'économie.
C'est en 2001 que la mine d'or de Morila a été ouverte. De son ouverture à nos jours, plus de 200 tonnes d'or ont été produites. Aujourd'hui, cette exploitation sera transformée en exploitation agricole. Il s'agit de faire de la production et de la transformation locale. Mori Kone, représentant des associations et coopératives de Sanso.
Avec l'agrobusiness, on a espoir qu'après la mine, l'agrobusiness vraiment va contribuer à changer considérablement notre terrain de vie, nos conditions de vie. Tout est pris en compte dans ce agrobusiness.
Morila Agrobusiness, c'est aussi des cages flottantes pour 3 tonnes de poissons par mois, d'unités de production avicole d'une capacité de 1000 alvéoles par jour, l'aviculture avec 1000 ruches, l'agroforesterie et le maraîchage, le tout soutenu par la centrale électrique de 29 MW. Pour le moment, ils sont 30 travailleurs, mais dans l'avenir, l'agrobusiness employera 3000 personnes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
La représentante permanente des États-Unis à l'ONU va quitter son poste à la fin de l'année. L'annonce de l'ambassadrice Nikki Haley a été faite hier et le président Trump lui a rendu un hommage particulier, présentant son travail aux Nations Unies comme un véritable succès. Pour une analyse, Abdulrahman Dia a joint ici à Washington Herman Cohen, ancien secrétaire d'État américain adjoint aux affaires africaines. Nous l'écoutons.
Ça a été une surprise, mais maintenant, en réfléchissant, je crois que c'était inévitable, parce qu'avec l'arrivée de M. Pompeo comme ministre des Affaires étrangères, qui est un homme très fort, agressif, et surtout M. Bolton, ancien ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, qui est maintenant le conseiller pour les affaires de sécurité auprès du président, je crois que Mme Haley n'a plus d'autorité sur la formulation des affaires étrangères. Elle reçoit des ordres. Elle reçoit des ordres. Et pour une femme comme ça, qui était très importante, je crois qu'elle elle en avait assez.
Certains sont d'autant plus surpris qu'elle a adopté une ligne dure sur l'Iran. Elle a également réaffirmé la position du président Trump concernant Israël. Sur le conflit israélo-palestinien.
Oui, oui, vous avez complètement raison, mais il y a un sujet de différence entre elle et le président, ça c'est la Russie. Elle veut être très dure avec la Russie sur tout ce que la Russie fait dans l'Ukraine, dans la Syrie, même en Afrique maintenant, dans la République centrafricaine. Mais pour une raison ou une autre, M. Trump veut être très gentil avec M. Poutine. Et je crois qu'elle ne comprend pas pourquoi. Et ça, c'est une différence. Mais en général, je crois que ce qui compte, c'est qu'elle a très peu d'autorité maintenant. On ne demande même pas son avis.
Donc, si je vous comprends bien, elle était beaucoup plus à l'aise lorsque Rex Tillerson était secrétaire d'État.
C'est ça. Rex Tillerson a dit envoyer des messages. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Quels sont vos conseils? Et maintenant, c'est fini, ça. Elle reçoit des ordres.
Certains analystes également avaient déjà commencé ce matin à évoquer ses ambitions politiques et même une éventuelle candidature à la présidentielle en 2020, mais elle a démenti tout cela. Pour vous, quel est son avenir politique?
Oh, je crois qu'il y a beaucoup de choses devant elle. Elle est très populaire dans son État, Caroline du Sud. Elle était déjà gouverneure là-bas. Peut-être elle peut être sénateur la prochaine fois qu'il y a une place libre. Et aussi, c'est le moment de gagner un peu d'argent. Je suis sûr qu'elle sera invitée à être dans le conseil d'administration de plusieurs grandes sociétés.
C'était l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines, Herman Cohen, joint ici à Washington.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Qu'est-il arrivé au journaliste saoudien Jamal Khashoggi? Les enquêteurs turcs pensent qu'il pourrait avoir été assassiné au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Et le président turc demande à Riyad d'apporter la preuve qu'il est toujours en vie. Jamal Khashoggi était en visite au consulat saoudien à Istanbul pour finaliser son mariage avec une ressortissante turque, mais depuis, il a été porté disparu. Cette disparition risque de déclencher une crise diplomatique entre la Turquie et l'Arabie Saoudite et aggraver les tensions déjà élevées dans la région. Le point avec Lionel Gahima.
Jamal Khashoggi s'apprêtait à travailler pour le Washington Post, mais depuis sa disparition, de nombreuses questions restent sans réponse. Ses amis et des sympathisants ont manifesté devant le consulat saoudien à Istanbul. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a décrit Khashoggi comme un ami personnel.
Les fonctionnaires du consulat saoudien ne peuvent pas se sauver en disant qu'il a quitté le consulat. Les autorités compétentes sont tenues de fournir la preuve de cette affirmation.
Khashoggi s'est rendu au consulat le 2 octobre pour compléter des documents pour épouser sa fiancée turque. Les enquêteurs turcs pensent qu'il a été assassiné et que son corps pourrait avoir été amené dans les véhicules diplomatiques. La police a demandé une recherche médico-légale. De son côté, le consul général d'Arabie Saoudite à Istanbul nie avoir connaissance de l'endroit où il se trouve. Mohamed Al-Otaibi, consul général saoudien à Istanbul.
Le consulat et l'ambassade travaillent à sa recherche et son cas nous inquiète.
Khashoggi a passé l'année dernière aux États-Unis après avoir fui l'Arabie Saoudite craignant d'être arrêté pour des articles critiquant les autorités saoudiennes. Lors de sa dernière apparition publique, il avait pris des positions fermes sur le Proche-Orient, Jamal Khashoggi, 3 jours avant sa disparition.
La question palestinienne est toujours une question délicate en Arabie Saoudite, même si le gouvernement contrôle tout en faisant taire les voix dissidentes et avec des gens en prison.
Khashoggi a notamment critiqué le prince héritier saoudien Mohamed bin Salman et le soutien de Washington au soi-disant chef réformiste. David Hurst est un ami de Khashoggi et rédacteur en chef du Middle East Eye.
Il s'est brouillé avec le roi et le gouvernement en raison de Trump et des États-Unis. Jamal Khashoggi était un Saoudien, mais il était devenu indépendant et leur montrait son mépris. Et il fallait s'en débarrasser.
Selon lui, la pression est maintenant sur Ankara pour qu'elle réagisse fermement.
Turquie compte 4 millions d'arabophones. Ils ont aussi des milliers de dissidents d'Égypte, de Syrie et du Yémen. Et si la chasse est ouverte et Ankara ne peut pas protéger ses citoyens sur son propre sol, la Turquie deviendra très instable.
Le département d'État américain a déclaré qu'il ne pouvait pas confirmer les affirmations turques, mais suivait de près la situation.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Sims Loumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.